Le premier conférencier que nous allons entendre est M. Mario Cicchini, qui va nous présenter les origines équivoques des pouvoirs de police entre le XVIe et le XIXe siècle. Alors, M. Cicchini est docteur en histoire de l'art, et chargé de cours en histoire moderne à l'Université de Genève. Il a publié de nombreux articles, mais il a, dans ce sujet, écrit un livre qui s'appelle « La police de la République, l'ordre public à Genève au XVIIIe siècle », paru en 2012. Actuellement, il travaille sur plusieurs chantiers. Le premier concerne les rapports entre la police et la justice en Europe au XVIIIe et XIXe siècle. Et puis, il prépare également un livre collectif sur la construction de la ville sociable depuis le temps des Lumières. Dans ce cadre, il étudie les effets combinés des transformations de la sociabilité urbaine et des pratiques de régulation sociale. Alors, je vais tout de suite lui céder la parole. Merci.
Bien, merci à toutes et à tous d'être ici, malgré la pluie. Merci en particulier à Mme Chaine-Colab et l'organisation de ces journées du patrimoine qui me donne l'occasion de parler ici, de discuter avec vous de ce drôle d'objet, en fait, qui est la police. Pourquoi drôle d'objet ? Eh bien, je vais commencer par deux petites remarques préliminaires qui vont permettre de situer les enjeux précisément de notre discussion. Tout d'abord, je voudrais vous faire remarquer un paradoxe, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. C'est que la police est l'institution, une des institutions de l'État de droit, qui est la plus médiatisée par la presse, par les nouvelles, par la littérature, le cinéma, les séries télévisées. Et pourtant, c'est celle que l'on connaît peut-être le moins bien. En tout cas, c'est celle qui se laisse le moins bien étudier. J'insiste là-dessus. Deuxième remarque. Le titre de mon intervention, « Les pouvoirs de police », a été choisi, peut-être par coquetterie en tout cas, a été choisi pour éviter ce mot trop massif, trop connoté, « la police ». Vous le savez, derrière ce terme, il y a en réalité une diversité des pratiques, des usages et des visages. Les visages de la police sont multiples. La marchande, pour la ménagère qui se rend au marché, ou pour le militant qui est dans une manifestation, le visage du policier ne sera évidemment pas le même. Entre l'inspecteur Harry ou l'agent 212, collection de portraits policiers qui est évidemment très très large, je ne vais pas ici tous les énumérer, portraits fictifs, portraits réels, certains du passé, certains d'aujourd'hui, peut-être du futur. En tout cas, la police est quelque chose de très diversifié. Et je dis ceci sans parler des polices privées, voire des détectives privés. Alors, je voudrais maintenant entrer dans le vif de notre sujet et commencer par quelque chose qui est sans doute rébarbatif, mais qui, pour moi, était essentiel. C'est une petite remarque de méthode. Comment faire l'histoire des pouvoirs de police ? Pendant longtemps, en fait, les historiens ont lutté sur deux obstacles importants, quasi rédhibitoires, je dirais, en tout cas pour les périodes plus anciennes. Il y avait soit la tentation de faire une histoire institutionnelle, et on se lançait dans la quête éperdue d'une naissance hypothétique d'une institution qui serait la police. Et en faisant ce choix, en réalité, eh bien, on perdait de vue toutes les petites institutions, peut-être parallèles, peut-être antérieures, peut-être postérieures, qui elles aussi faisaient d'une manière ou d'une autre la police. Donc vous l'aurez compris, je ne vous donnerai pas ici une date qui vous permettra de fixer dans votre mémoire le moment par excellence où serait née la police. Cette date, je ne crois pas qu'elle existe. Deuxième obstacle qui a limité pendant longtemps les études sérieuses sur la police, c'est une approche que je qualifie de fonctionnelle. Ici, l'historien part de ses propres conceptions de la police, celle qu'il connaît moment où il étudie son objet, et il plaque ses conceptions sur les sociétés du passé. Ce faisant, vous l'aurez très bien compris, il est facile de s'imaginer qu'il y a des officiers de police ou des agents de police depuis qu'il existe des sociétés organisées. Plus sérieusement, avec ce type d'approche fonctionnelle, eh bien, l'historien plaque sur les temps du passé, sur les temps reculés, une vision préconstruite des fonctions de la police, et vous le savez parce qu'on le vit tous au quotidien, les fonctions policières évoluent au rythme des sociétés. En d'autres termes, une fois, l'étude historique des fonctions de police n'est pas très satisfaisante, en tout cas pour la recherche. Alors, ces deux obstacles ont été dépassés depuis une vingtaine d'années, je dirais, grâce à l'apport, entre autres, de la philosophie du droit. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, simplement pour vous dire que ce sont des approches qui ont permis de dépasser, encore une fois, l'approche institutionnelle et l'approche fonctionnelle. De quelle manière ? En proposant une approche par le concept. Encore une fois, je vais éviter de jargonner, mais pour le dire en des termes très simples, l'approche par le concept consiste à étudier l'apparition d'un mot, celui qui nous intéresse, police, hein, et d'essayer de comprendre la manière dont les sociétés font émerger ce mot, le conçoivent. Hein. Et à partir de là, eh bien, essayer de comprendre ce qui se fait au nom de la police, autant où l'on l'étudie. Il s'agit d'observer à partir du mot, finalement, comment s'organisent des pratiques et peut-être même des institutions. Alors pour beaucoup d'entre vous, ce que je vous raconte, c'est un petit peu le béaba d'historien, hein, s'intéresser à un mot, celui dont on cherche à faire l'histoire, c'est ce qu'on dit en tout cas aux étudiants à l'université en première année, hein, regarder dans un dictionnaire, et pourtant ce simple réflexe, eh bien pendant longtemps, n'a jamais été observé, n'a jamais été appliqué par bon nombre d'historiens. Alors, à vrai dire, pendant longtemps, la police a souffert, et l'étude de la police a souffert d'une ambiguïté sémantique. Pourquoi ? Parce que le mot, dans la langue française, ne se fixe que très difficilement entre 16e et 17e siècle. Hein, c'est un terme qui apparaît au 16e siècle déjà, mais on trouve dans les textes anciens encore des termes comme « policy » avec un T, « policy » avec un C en français. Pour donner un exemple très concret, Genève, en 1762, dans le contrat social, Jean-Jacques Rousseau parle encore de « policy » avec un T. Évidemment, il fait dériver le terme du grec « politeia » qui signifie « organisation politique ». Encore une fois, ce n'est pas facile de saisir ce que ce terme veut dire. Toujours est-il qu'entre 16e et 17e siècle, toutes les langues européennes se dégagent petit à petit ce mot de police en français, en anglais, en italien très tardivement, et également en allemand, et pourrait sans doute multiplier l'enquête dans le nombre d'autres langues. Alors concrètement, que disent les dictionnaires de langue française ? Eh bien, on ne peut pas éviter de regarder le dictionnaire de l'Académie française, première édition de 1694, ce dictionnaire qui fixe les normes de l'usage du français. Eh bien, dans cette première édition, on y lit « police, ordre, règlement qu'on observe dans un État, dans une république, dans une ville, et puis une restriction du contexte d'usage. Police se prend plus particulièrement pour l'ordre qui s'observe dans une ville à l'égard de la conduite des habitants, de la vente des marchandises, des denrées. » Dans la première acception, on retrouve cette ambiguïté, hein, Politeia, organisation politique, la police à l'échelle d'un État, d'une république, et police à l'échelle d'une localité. Autre référence, quatrième édition du dictionnaire de l'Académie française, visiblement les académiciens travaillaient un petit peu plus rapidement qu'aujourd'hui à l'époque. Police, ordre, règlement établi dans une ville pour tout ce qui regarde la sûreté et la commodité des habitants. On voit ici, trois éléments, me semble-t-il, qui sont importants. Tout d'abord, il n'est nullement question d'institution ou de fonction. à aucun moment des grandes institutions. Deuxièmement, on voit bien qu'il s'agit, quand on parle de la police, d'un dispositif réglementaire. Et puis troisièmement, on voit que, en tout cas durant la période moderne, eh bien, cette notion de police tend à s'appliquer presque exclusivement à l'échelle d'un territoire déterminé, en l'occurrence la ville. Donc la police comme pouvoir réglementaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie les textes, les grands textes des juristes du XVIe siècle, vous savez qu'au XVIe siècle, au moment où finalement se façonne la théorie politique, eh bien, les juristes tentent de définir, de donner une définition de la souveraineté. Or, dans aucun des grands textes du XVIe siècle, je pense ici notamment dirait quelque chose à Jean Bonhomme, eh bien, on ne trouve de mention de la police comme étant un attribut de la souveraineté d'un État, comme étant un droit régalien à part entière. Vous savez, les droits régaliens que définissent ces théoriciens, ces quatre ou cinq droits, ce sont battre la monnaie, lever les impôts, rendre la justice, faire la guerre et la paix, et faire les lois. La police n'est pas nommément désigné comme étant un droit régalien par excellence, ne fait pas partie de la théorie de la souveraineté. En revanche, les juristes considèrent que le droit de police est un pouvoir de faire des règlements particuliers pour les citoyens sur un territoire déterminé. C'est ce que dit notamment un important juriste de la monarchie en France, théoricien de l'absolutisme. Et puis, c'est ce que dit aussi un avocat et homme d'Église à la fin du XVIIe siècle, Claude Fleury. On appelle police les règlements particuliers qui concernent les choses les plus nécessaires à la ville et au commerce des hommes, qui, étant pour la plupart différents dans chaque lieu, ne peuvent pas aisément être compris sous une loi générale. Encore une fois, la police est un pouvoir réglementaire. Si l'on continue notre petite enquête conceptuelle, il y a un livre très important pour les historiens de la police qui commence d'être publié en 1705 par un magistrat parisien, qui s'appelle Nicolas de Lamar, et qui écrit tout simplement un traité de la police, le premier du genre, et qui écrit ceci à propos justement de cette réglementation. De quoi parle-t-on quand on parle de réglementation de police à cette époque? Eh bien, pour de Lamar, vous voyez, il donne finalement une espèce de catalogue d'inventaire à la Prévert. La police est contenue dans tous ces différents objets, que sont la religion, les mœurs, la santé, les vivres, c'est-à-dire l'approvisionnement des villes, la sûreté, la tranquillité publique, la voirie, les sciences, le commerce, les manufactures et les arts, mécaniques, les serviteurs domestiques, les manouvriers et les bourreaux. Pour le dire en d'autres termes, tel que la conçoivent en tout cas les juristes et les praticiens à l'âge classique, la police réglemente tous les objets de la vie quotidienne. Tous les objets de la vie quotidienne. Une idée que va souligner encore Montesquieu dans l'Esprit des lois en 1748, où il dit « La police est une chose de chaque instant. Hein, tous les moindres instants de la vie quotidienne, urbaine, sont réglés par la police. » Alors, il y a un autre élément qui est important dans cette conception que l'on se fait de la police entre XVIIe et XVIIIe siècle, c'est son objectif. À quoi sert-elle? Alors là, on a aussi chez de Lamar une idée qui est très forte, qui sera reprise par bon nombre de commentateurs de la police et consorts. L'unique objet de la police, on dit de Lamar, consiste à conduire l'homme à la plus parfaite félicité dont il puisse jouir en cette vie. Alors, vous l'avez évidemment reconnu, il y a derrière cette phrase une reformulation, finalement, de la pastorale chrétienne. Hein, à l'instar du bon pasteur des églises qui va conduire les fidèles sur le chemin du salut, eh bien, le conducteur de la police va conduire les citadins sur le chemin de la félicité ici-bas, sur Terre. dans son environnement urbain quotidien. Et encore une fois, hein, cet objectif pastoral, qui est souligné par de la main, rempli par tous les théoriciens de l'Église grecque moderne, eh bien, cette mission pastorale, elle est portée par quoi ? Par des règlements de police. Par des règlements de police qui doivent permettre d'atteindre cet ordre idéal que nous décrivent également les dictionnaires. Pour le dire autrement, aux yeux des juristes et des praticiens, la police, c'est finalement l'ordonnance de police elle-même. La police n'est pas autre chose que les règlements de police qui, finalement, en déterminent les périmètres. Pour éviter d'être trop abstrait, peut-être un exemple d'une ordonnance de police. De quoi parle-t-on quand on parle d'une ordonnance de police ? Alors tout d'abord, je vais commenter dans un instant ce texte, mais tout d'abord, il faut avoir à l'esprit que pour un citadin qui vit dans ce régime, les ordonnances de police, on en prend connaissance d'abord par l'écoute. Par l'écoute, parce que c'est à travers la criée publique que les ordonnances de police sont diffusées, et c'est là le mode de diffusion légale de ces normes. Dans une société parfaitement alphabétisée, la manière régulière de faire savoir une norme pour que personne n'en prétende cause d'ignorance, comme disent les textes, eh bien c'est de proclamer un texte de manière claire et solennelle. Subsidiairement et de manière croissante à partir du milieu du XVIIIe siècle, ces ordonnances de police sont également imprimées et affichées. Si vous regardez la troisième ou deuxième ou deux troisième ligne avant la fin, ce n'est pas par souci de redondance qu'on dit que ces publications seront lues, publiées et affichées. Ce sont trois opérations évidemment bien distinctes. Alors, cette ordonnance de police, en l'occurrence, je n'aurais pu en prendre bien d'autres, elle fait partie de quelques 2000 et plus ordonnances de police qui sont publiées entre 1650 et la fin de l'Ancien Régime, je vois, en 1722. Eh bien, on voit sur cette ordonnance d'abord une autorité qui édicte une disposition. Cette autorité, elle est mise en évidence par les lettres capitales. Ensuite, une disposition qui consiste à interdire de louer des chambres ou des salles à des jeunes qui, visiblement, s'adonnent au jeu et se dissipent dans leur loisir. Ils négligent leurs obligations d'apprentis, d'étudiants, et donc on interdit de leur louer des salles. Je n'entre pas ici, on va en discuter si vous le souhaitez plus tard, je n'entre pas ici dans le contenu et raison d'être de cette ordonnance de police. Et ensuite, vous voyez dans le troisième paragraphe l'idée que cette ordonnance de police est universelle, ces interdictions sont faites à qui que ce soit. Il y a aussi, vous l'avez certainement vu, la menace d'une sanction de 500 florins d'amende et voire de prison qui contreviendrait à cette ordonnance. Et puis enfin, tout en bas, vous avez un mandat d'exécution de la disposition qui s'adresse à divers personnages, qui sont diverses magistratures, divers individus pourvus d'une responsabilité dans l'administration de l'ordre urbain, et je reviendrai sur cette question plus tard. Alors, quand on compile l'ensemble de ces ordonnances de police sous l'Ancien Régime, je ne vais pas commenter ce tableau, il n'est pas très très visible ainsi, mais pour le dire rapidement, quand on compile toutes ces ordonnances de police, eh bien on voit qu'effectivement, comme le disent les théoriciens, comme le disent les juristes, eh bien ces ordonnances de police, elles concernent effectivement une quantité d'objets très, très divers. Là aussi, je pourrais commenter tout à l'heure si vous le souhaitez. Je voudrais simplement vous attirer votre attention sur le fait que, en tout cas pour le cas de Genève, il y a quelques objets, quelques priorités policières qui émergent, en tout cas à l'aune des ordonnances de police. C'est évidemment ce qui concerne la santé, ce qui concerne l'approvisionnement, et puis également ce qui concerne la sûreté publique. Ce qui est intéressant, c'est que ce tableau, qui est ici un peu figé, puisqu'il couvre un siècle et demi de compilation d'ordonnances de police, bien ce tableau évolue si l'on s'intéresse à des périodes un peu plus resserrées, les priorités policières évoluent en même temps, encore une fois, que la société elle-même, évidemment, et peut-être aussi, elles évoluent en fonction des conceptions que l'on se fait de la police. Deux évolutions notables des ordonnances de police à Genève. Vous voyez que l'approvisionnement, tout ce qui concerne les vivres, chute, passant entre 1700 et 1702 de 46%, 19% en 1760 et 1782, alors que ce qui concerne la sûreté, la tranquillité publique, eh bien, augmente. Cette évolution, on le constate ici à Genève, il faut tout de suite préciser qu'elle se manifeste partout en Europe. Et on a en fait partout en Europe une claire inflexion de cette mission pastorale de la police que j'exposais tout à l'heure vers une autre conception de la police qui privilégie d'autres priorités, notamment la sûreté, tranquillité publique, et qui se dote aussi, et on va le voir, d'autres moyens d'intervention. J'en viens à la troisième partie de la présentation à propos de la montée en puissance justement de ces enjeux sécuritaires. Donc, à partir du milieu du XVIIIe siècle, la conception de la police évolue. On retrouve dans de nombreux textes à portée théorique ou dans les écritures administratives l'idée que la police n'est plus seulement matérialisée dans les ordonnances, dans la norme, mais qu'elle devient un pouvoir agissant. En particulier, ce pouvoir veille, ou mieux, voit tout. Sans être nécessairement une institution clairement identifiée, la police devient, par anthropomorphisme, une sorte d'agent spectateur. Et c'est assez fascinant de voir dans les sources comment émerge une métaphore qui, jusqu'à aujourd'hui, est tout à fait commune. On voit apparaître la métaphore l'œil de la police. L'œil de la police, en principe, c'est un règlement, la police, et tout d'un coup, la police, c'est quelque chose qui a un œil. C'est quand même étonnant de voir émerger ce type de chose dans les archives. Et l'œil de la police, peut-être que vous le savez, ce sera au temps de la Belle Époque, le titre d'une publication hebdomadaire en France entre 1908 et 1914. Donc, la police veille, c'est une idée qui tend à s'affirmer. Alors, cette idée d'une police qui veille, elle est adossée aussi à une certaine évolution de techniques de surveillance et de contrôle. Certaines sont inédites au XVIIIe siècle, d'autres sont plus anciennes, mais sont perfectionnées, améliorées précisément à partir de cette époque. Une technique qui évolue, c'est tout ce qui concerne l'identification des personnes au XVIIIe siècle. Alors, à l'âge de l'identification biométrique et numérique, les techniques anciennes d'identification des individus, elles prêtent souvent à sourire, mais en réalité, ces techniques qui se développent au XVIIIe siècle, elles sont porteuses d'interrogations qui, encore aujourd'hui, ont toute leur validité. Comment attester de l'identité d'une personne qu'on ne connaît pas? Comment reconnaître une personne à distance, loin des attaches de sa communauté? Au XVIIIe siècle, le passeport universel n'existe pas. En revanche, pour tout individu qui souhaite se déplacer plus ou moins loin de sa communauté d'origine, eh bien, il aura besoin de certificats de mendicité, d'actes d'apprentissage, de congés militaires, d'extraits de registres de baptême, etc. Toutes sortes de papiers, d'identités de papiers délivrés par les autorités paroissiales ou communales et qui constituent un viatique pour ces individus qui se déplacent et qui ne souhaitent pas être confondus avec ceux que l'on qualifie de gens sans aveu, qu'on ne peut pas avouer, et des gens qui souhaitent simplement attester de leurs bonnes intentions. Alors, je n'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus, mais j'aimerais en revanche vous montrer quelque chose qui est intéressant. Ce sont les signalements de criminels en cavale qui se systématisent là aussi au XVIIIe siècle et qui circulent plus fréquemment entre les États et qui, en fait, soutiennent aussi quelque chose qui aujourd'hui est absolument commun. Ces instruments soutiennent évidemment la coopération judiciaire entre les États. Ces textes prennent une forme de plus en plus codifiée et, on le voit ici, on privilégie progressivement l'imprimer, ce qui n'est pas le cas encore au XVIIIe siècle. On a des signalements qui sont manuscrits. À droite, vous avez un signalement un peu classique où l'on donne simplement des données classiques de l'état civil, le nom, l'âge, lieu de naissance, etc. Et vous avez en dessous un signalement un peu plus curieux qui se lance en fait dans une description en fait physique, quasi psychologique du personnage. Hein. On recherche cet abbé Lafin qui fait métier de peintre en miniature, qui parle très mal le français, médiocrement l'italien. On se demande d'ailleurs quelle langue il parle. Hein. Il est grand gesticulateur, petit de taille, maigre, sans excès, le teint limpide, chaud, etc., etc. Toutes sortes de caractéristiques physiques, voire psychologiques, d'un compétence aussi, qui sont censées permettre d'identifier cette personne, encore une fois, à distance. Alors, le temps avance. Je voudrais passer à un deuxième élément important de ces techniques qui se développent, l'éclairage urbain. Pendant longtemps, vous savez que la nuit exerce une véritable tyrannie sur les sociétés très mal équipées pour y résister. Corinne Walker avait fait des travaux pionniers sur cette question-là à Genève. Et pendant longtemps, en fait, l'obscurcissement du ciel impose le confinement social, dicte la fermeture des portes des villes et limite les circulations. À partir des années 1660-1680, notamment dans les villes du nord de l'Europe, à Amsterdam, Bruxelles, Londres et Paris, eh bien, les municipalités se dotent progressivement d'un éclairage public. Je dis municipalité, en réalité, pour Paris, c'est un petit peu différent, puisque l'éclairage public est impulsé par la royauté, puisque Louis XIV en fait une manifestation, évidemment, de sa grandeur de roi soleil, et aussi une démonstration de son intérêt pour la police de la capitale. À Genève, l'instauration de l'éclairage public est plus tardive. D'abord, pendant longtemps, les coûts des installations lumineuses constituent le principal obstacle à l'établissement d'un tel dispositif public qui demande d'instaurer une taxe spécifique qui n'est jamais populaire. À partir des années 1730, des lanternes sont fixées sur des édifices publics, des places, des fontaines et des ponts, comme ici, à partir de 1757, sur les. Et puis ce n'est qu'en 1782, dans des circonstances politiques particulières, que les autorités finissent par trouver les ressources financières nécessaires à l'instauration d'un éclairage public sur l'ensemble de la cité. Éclairage public sur l'ensemble de la cité, en tout et pour tout, ce sont 172 points lumineux qui sont suspendus à l'aide d'une corde entre deux maisons au milieu des rues. Et vraiment, c'est un éclairage encore très, très sommaire. Dernier dispositif dont je voudrais vous parler rapidement, c'est la numérotation des maisons. Aujourd'hui, la numérotation des maisons, c'est un objet évidemment banalisé par plus de deux siècles de pratique quotidienne. Et pourtant, quand il apparaît au XVIIIe siècle, c'est une nouveauté. Hein, c'est un outil administratif et policier absolument inédit. Il apparaît de manière pérenne et systématique d'abord dans les villes de Prusse, dans les années 1740, et puis à Madrid, à Londres, à Copenhague, à Paris, je ne vais pas vous donner les dates, et on retrouve les premières numérotations des maisons aussi en Amérique du Nord, à Philadelphie, à New York, dans les années 1780-1790. À Genève, comme l'éclairage public, la numérotation est adoptée, appliquée à partir de 1782. À vrai dire, le dispositif connaît des précédents spécifiques. On teste d'abord la numérotation de certains métiers dont on se méfie. Par exemple, les coupeurs de bois, qui sont des ouvriers forains, étrangers, qu'on ne connaît pas bien, eh bien, on va les numéroter, enregistrer leur numéro sur un livre de police, qui va permettre de les identifier au cas où ils se rendraient fautifs d'une contravention. On va également appliquer la numérotation sur les chariots, sur les véhicules, sur les charrettes. À partir des années 1760, à Genève, là aussi, pour identifier les auteurs des infractions de police. Le dispositif existe à Londres et à Paris à partir des années 1720-1730. Hein. Et ce n'est finalement, alors comme je l'ai dit, qu'en 1782 que la numérotation des maisons est décidée. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail, mais il faut imaginer que ce n'est pas une opération anodine. Par où commencer la numérotation? Comment procéder? Par quel circuit adopter? Pour nous, c'est évident, père, un père, etc. C'est une exposition napoléonienne, on a hérité en fait de réflexions qui ont été mûries longuement, mais qui, au départ, sont le fruit de beaucoup de tâtonnements. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail, mais si l'on numérotait aujourd'hui les maisons dans les moyennes du XVIIIe siècle jusqu'en 1860 à Genève, je vous assure que vous ne comprendrez pas grand-chose. Alors, j'en viens maintenant à un dernier élément. Un dernier élément, c'est ce qu'on peut appeler ou qualifier le tournant révolutionnaire. Dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, avant même la Révolution française, en réalité, partout en Europe, les enjeux de police sécuritaire sont plus affirmés que jamais. Et on peut ici identifier trois facteurs qui permettent peut-être d'expliquer cette évolution des conceptions de la police. Tout d'abord, l'obsession sécuritaire rencontre le discours sur la réforme pénale, qui est très important à partir des années 1750. Vous le savez sans doute, c'est un des fers de lance de la philosophie des Lumières, la modération pénale, qui consiste à plaider pour des peines moins sévères, pour des peines moins sévères, en tout cas en Europe continentale, mais en contrepartie pour un exercice de la justice beaucoup plus régulier, plus efficace. Cette idée-là, j'y reviendrai dans un instant. Deuxième élément, deuxième facteur qui permet peut-être de comprendre cette évolution des sensibilités à l'égard de la police, certains auteurs parlent d'un passage d'une société organiciste de corps à une société d'individus. Il y a le sentiment généralisé parmi les élites européennes, et en particulier parmi les réformateurs de l'État et ses administrateurs, que les contrôles communautaires ne suffisent plus dans une société où le lien social se distend au moment où s'accroissent les mobilités sociales et géographiques. C'est un discours un peu récurrent dans les villes européennes. Et puis, troisième élément, qu'on peut mobiliser pour tenter d'expliquer cette évolution de conception policière, c'est l'essor d'une idéologie libérale qui prône la liberté dans les échanges économiques et les circulations des biens et des personnes. Et dans cette perspective, il n'appartient plus à l'administration de s'assurer, par exemple, de l'approvisionnement des villes, soumis les statistiques tout à l'heure, mais c'est évidemment aux marchands, au jeu de l'offre et de la demande, de réguler les consommations, en tout cas en denrées alimentaires, notamment. Bien notamment. Cette libéralisation s'accompagne de la nécessité d'assurer les circulations, d'améliorer la protection des biens et des personnes, et donc de développer toutes sortes de dispositifs relatifs à la sûreté des individus. La liberté de circulation des biens et des personnes qui se développe au XVIIIe siècle est en fait configurée par une nouvelle rationalité politique, Michel Foucault a qualifié de moindre gouvernement. Et dans cette perspective-là, il disait que la liberté qui se dégage à ce moment-là n'existe pas en réalité en dehors d'une pratique gouvernementale qui la fabrique à chaque instant. Alors, ce que l'on voit poindre dans les règlements, dans les nouveaux dispositifs de police, eh bien, se traduit aussi par une évolution des institutions et des agents responsables de l'ordre urbain. Avant d'en venir sur ces évolutions, deux mots sur les personnes qui, finalement, appliquent ces ordonnances de police, sur ces régimes. Eh bien, selon ces régimes, les tâches de police sont généralement confiées à des magistrats, à des juges des tribunaux inférieurs, responsables de ces ordonnances. Les magistrats n'exercent pas seuls, ils s'appuient eux-mêmes dans leurs activités quotidiennes sur un petit personnel, sur des huissiers, des sergents de ville, qui généralement sont rattachés à des petites cours de justice. Dans le panorama européen, les personnes exclusivement rattachées à des tâches de police et non à des tâches de justice et de police, eh bien les personnes exclusivement rattachées à des tâches de police sont extrêmement rares, à ma connaissance, l'exception est parisienne avec la création en 1702 d'un corps d'inspecteur de police. Donc à Genève, pour l'essentiel, la police est. Les ordonnances de police, encore une fois, sont confiées à la responsabilité de 6 magistrats élus par les citoyens et qui sont renouvelés tous les 3 ans. Ces magistrats ne sont pas armés, ils ont une arme d'apparat, une épée en réalité, et ils sont accompagnés donc d'huissiers qui eux non plus ne sont pas armés. Alors, la première évolution majeure, là, vous avez compris vers quoi je vais m'orienter, la première orientation majeure, développement majeur des appareils de police, eh bien, c'est le recours aux militaires. Dans le cadre de Genève, ce recours aux militaires se fait de manière accrue à partir des années 1730. Je ne vais pas ici insister sur l'histoire du corps militaire en question, c'est-à-dire la garnison qui est créée en 1703, la garnison permanente des soldats gardiens créée au lendemain de l'escalade. Je voudrais simplement insister sur le fait que les soldats de la garnison, qui sont au XVIIIe siècle environ 700, sont progressivement les instruments du travail de police pour des tâches qui dépassent les fonctions traditionnelles et militaires. Ces fonctions traditionnelles, vous connaissez, ce sont les patrouilles nocturnes, les gardes aux portes des villes. Et bien, peu à peu, les militaires sont affectés à des tâches qui relèvent plutôt de la police urbaine ou de la lutte contre la criminalité. Ils sont employés dans la lutte contre les incendies, pour éviter les pillages, on les invite à surveiller les marchés, à régler les circulations, à gérer les foules qui se rendent au marché, au spectacle. Plus tard, dans les années 1780, ils seront affectés à la police du théâtre, ils sont affectés à l'arrestation des criminels, et ils font aussi la chasse aux vagabonds, aux mendiants. C'est une force de police qui se déploie, qui se développe, mais qui en réalité fait débat dans la société. Et la question qui se pose, c'est de savoir si les militaires sont une force de police à part entière ou non. Et en fait, tout au long du XVIIIe siècle, je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais l'enjeu pour les citoyens et les bourgeois, opposé à une politique déployée par les autorités oligarchiques qui visent au contraire à faire de la garnison un instrument de la police quotidienne, eh bien, de nombreux citoyens et bourgeois vont s'élever contre ce qu'ils considèrent comme un abus de pouvoir. Ils vont notamment réussir à fixer les compétences de cette garnison en matière de police. Et puis ici, vous le voyez, en 1768, une tentative réussie, fixée dans un édit, de limiter les contextes dans lesquels on va pouvoir, dans lesquels les magistrats, le lieutenant et les auditeurs vont pouvoir céder de soldats de la garnison. Alors, ce recours aux soldats de la garnison, l'appui des appareils de police, c'est une évolution que l'on retrouve là aussi partout en Europe, et d'abord pour une raison qui n'est pas propre à l'administration urbaine, mais qui est propre à la gestion des territoires et des campagnes. Vous le savez, en France, il existe depuis le Moyen-Âge la maréchaussée, qui est ensuite redéfinie sous François Ier, qui est à la base une police militaire, chasse aux déserteurs notamment, mais qui peu à peu a des fonctions de police des grands chemins. Et bien cette maréchaussée en France, en réalité, c'est à partir des années 1720-1730, à l'appui d'un certain nombre de lois qui sont adoptées à ce moment-là, qu'elle se construit comme une véritable force de police des campagnes françaises. Sur ce modèle français, un peu partout en Europe, dans les États germaniques, à Neuchâtel aussi, par exemple, sous souveraineté prussienne, eh bien, on voit apparaître là aussi des contrôles territoriaux confiés à des militaires qui s'institutionnalisent comme des forces de police. Et puis, cette évolution séculaire, elle aboutit, vous vous le savez, à la création en 1791 de la gendarmerie nationale en France, avec une loi qui d'ailleurs fait bien le passage entre la maréchaussée et la gendarmerie nationale. Avec l'article 3000, la maréchaussée portera désormais le nom de gendarmerie nationale. Je n'entre pas ici dans le détail de cette loi. Mais on voit bien une évolution séculaire qui tend à faire des soldats, des militaires, une force de police à part. La deuxième évolution majeure sur laquelle je voudrais m'arrêter concerne le rapport de la police à la justice criminelle que j'ai évoquée tout à l'heure. Comme je disais, dans le discours des réformateurs du droit et même des praticiens, il y a cette idée qui devient une obsession à partir de 1750-1760, que la modération pénale est une nécessité quasi philosophique. Mais pour accomplir cette modération pénale, pour permettre d'adoucir la sévérité des peines, eh bien, il faut que la justice s'exerce avec plus d'exactitude que de l'autre. Vous avez un extrait ici d'un discours important d'un magistrat genevois, Jean-Bert Rochin, procureur général. Vous avez aussi un écho à ces préoccupations dans le célèbre traité des délits et des peines, que vous avez décalé, publié en 1764. Ce n'est point la rigueur des supplices qu'on prévient le plus le plan, par la rigueur des supplices qu'on prévient le plus sûrement les crimes, c'est par la certitude de la punition. Vous avez bien vu, ici on ne parle pas de police. Hein. Personne ici ne parle de police. Et pourtant, vous allez voir, c'est en fait une préoccupation qui est sous-jacente et qui va être exposée au grand jour au moment de la Révolution française, au moment du débat à l'Assemblée constituante qui vise à mieux distinguer police et justice. Au moment où l'Assemblée constituante débat de ces questions, les révolutionnaires français ont adopté le principe de la séparation des pouvoirs et il devient à leurs yeux important de bien distinguer les tâches de police d'un côté et les tâches de justice d'un autre. Et on retrouve sous la plume de cet important constituant, Adrien Duport, hein, des termes qui sont à peu près ceux qu'on trouvait sous la plume de Jean-Albert Rochin, de Cesare Beccaria. Hein. La raison et l'expérience ont prouvé que les hommes étaient plutôt retenus par la certitude de la punition que par l'intensité de la peine. La société doit donc prendre les précautions les plus exactes pour que les plus graves soient fusées. Quelles sont ces précautions? Eh bien, les voilà. Police exacte, sans inquisition, justice humaine et publique, peine douce, mais inévitable, voilà le système des pays. Alors j'en viens maintenant à quelques mots de conclusion. Vous voyez comment finalement s'est dégagé à la fin du XVIIIe siècle une police qui cherche à tend à devenir un véritable auxiliaire de police. Alors, pardon, trois remarques pour conclure. Au moment où émerge l'état de droit, les pouvoirs de police relèvent de trois traditions concurrentes qui sont malgré tout appelées à cohabiter. La première tradition, c'est celle que je vous ai évoquée au départ, c'est la tradition de la police urbaine, qualifiée parfois de municipale aujourd'hui, de communautaire ou de proximité. Et c'est une police qui a avant tout une fonction sociale, qui vise à faire respecter la paix sociale, la paix publique, qui vise à s'interposer dans les conflits interpersonnels ou à réguler par exemple aussi la circulation. C'est une police immergée dans la communauté et intégrée au mieux dans l'espace social, et son contrôle par la société est relativement élevé. Deuxièmement, il y a l'émergence d'une deuxième tradition policière, c'est la police criminelle qui est chargée de la poursuite des infractions pénales. Cette police entretient un rapport privilégié avec l'appareil de justice et lui est en principe subordonnée. La police criminelle, depuis la fin du XVIIIe siècle en vérité, c'est un processus de longue haleine. Eh bien, elle se distingue par un degré important de technicité et elle est travaillée, surtout au XIXe et XXe siècle, par un processus de spécialisation. Et enfin, vous avez une troisième police, oui, qui est une police d'ordre, une police de souveraineté, on pourrait qualifier aussi le bras armé de l'État, dans l'ordre interne. La militarisation dans ce type de pouvoir de police importante, elle s'occupe de la surveillance des frontières, la maîtrise des mouvements collectifs et s'occupe aussi de la protection et de l'intégrité de l'État. Ce sont là ses prérogatives principales. Alors, une remarque conclusive, je n'ai pas dit grand-chose de la police sous la Révolution française à Genève, si vous m'en parlez, mais ce qui me semble important, c'est de constater qu'entre 16e et 19e siècle, il y a quelque chose qui se construit progressivement, en vue ensuite de l'avènement de l'État de droit, qui est un équilibre entre trois pouvoirs de police dont l'équilibre n'est en fait jamais véritablement acquis, jamais décidé, et dont la fragilité fait dès le 19e siècle l'objet de vives inquiétudes, notamment sur la Restauration. Et il y a dans les archives un petit texte que je trouve magnifique parce qu'il résume bien le désarroi finalement qu'a pu vivre un magistrat de police à l'ancienne, ces bons vieux magistrats chargés d'appliquer les bonnes vieilles ordonnances de police, et qui se retrouvent confrontés à une forme de modernité policière qui serait celle de la militarisation des polices via notamment la création de la gendarmerie à Genève, instaurée dès 1798 et réactivée à partir de 1814. Voilà ce que dit ce bon vieux magistrat Jean-Jacques Rigaud. Ce qui doit révolter tout le peuple libre, c'est de se voir soumis à une police militaire. Nous sommes obligés d'employer pour faire la police des gendarmes qui devraient être réservés ainsi que la garnison pour prêter main forte à la police. Dans son esprit, c'est peut-être confus pour vous, mais dans son esprit, c'est écrit très clair. Il y a quelque chose qui s'appelle la police, qui est la police de magistrature, cette police réglementaire à l'ancienne, et qui se trouve confrontée avec quelque chose qui, à ses yeux, n'est pas intégré dans la police. C'est la garnison, c'est la gendarmerie. Voilà, j'en ai terminé ici, je vous remercie de votre attention.
Des changements qu'il y a pu y avoir dans la structure policière au moment de la présence française à Genève. Parce qu'on a un homme, comme vous dites, d'ancienne pensée, si ce n'est d'ancien régime, et qui a une inquiétude face à une police beaucoup plus moderne, on va dire.
Absolument. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tout au long de l'ancien régime, même si... Tout au long de ces régimes, en fait, le magistrat ne considère pas la garnison comme une force de police. Au mieux, et c'est presque un terme tout à fait nouveau à la fin du XVIIIe siècle, on parle de force publique. Donc, dans la tête de ces magistrats à l'ancienne, la police est une affaire de magistrature et pas une affaire militaire. En revanche, effectivement, au moment où je vais me commencer à la France, la donne est passablement changée puisque l'administration française est installée. Alors elle récupère un bon nombre de personnel. D'ailleurs, c'est intéressant pour la continuité. Finalement, la révolution genevoise à partir des années 1794-1796 met en place des institutions qui sont copiées sur le modèle français. On a des commissaires de police qui sont créés à Genève. Et ces mêmes commissaires de police vont être confirmés dans leurs fonctions avec l'arrivée des Français à partir de 1798. Ceci dit, au moment où Genève est annexée à la France, il y a la création d'une compagnie de gendarmerie à l'échelle du département du Léman, et à Genève même, il y a des gendarmes qui vont stationner à l'intérieur de la ville. Enfin, ils vont avoir des fonctions à l'intérieur de la ville, de tout ce qui concerne. L'hébergement, le contrôle des étudiants, etc. Évidemment, dans l'état d'esprit des Français, la gendarmerie est une force de police de l'intérieur. Donc effectivement, c'est là une dissonance, c'est-à-dire qu'avec la restauration, on va garder certaines structures apportées par l'administration française, parce que ce sont des structures finalement assez efficaces pour le bon fonctionnement de l'État, mais qui viennent empiéter sur d'anciennes prérogatives et d'anciennes conceptions de qu'est-ce qu'une bonne police.